consulé, c'est-à-dire que ce matin, il nous emmenait à Qumran.
Bonjour David Shapira.
Bonjour Asli et bonne fête de Hanouka, bientôt bonne fête de Noël à tous nos auditeurs et auditrices de Radio Judaïka.
Merci beaucoup, tout le plaisir est pour nous David et très très bonne fête à toi également. Alors aujourd'hui, on va parler d'un lieu en Israël, on va parler de Qumran, qui était habité par une population nommée les Esséniens. Et justement, puisqu'on parle de Hanouka, eh bien David, ça a un lien avec Hanouka, donc je te laisse nous en parler.
Oui, on va essayer de faire de l'ordre un peu dans tout ça. Alors Qumran, c'est un site très connu. Il se trouve au bord de la mer Morte, du côté nord de la mer Morte. Et Qumran était un lieu très visité parce que dans ce petit village de Qumran, où on peut observer aujourd'hui les vestiges, eh bien, on a trouvé, pas loin de là, des manuscrits très célèbres qui sont maintenant entreposés au Musée d'Israël et qui sont des manuscrits de la mer Morte. Et ce sont des manuscrits qui ont été rédigés sur du parchemin il y a 2000 ans. Et c'est en fait, je dirais, presque la seule trace écrite sur parchemin de l'existence de Juifs dans la région et dans le pays. Alors, qui étaient les habitants de ce petit village qui comptait entre 40 peut-être 50 habitants? Eh bien, ce sont les Esséniens. Et qui sont les Esséniens? Eh bien, on apprend sur ce courant ultra minoritaire, on apprend les caractéristiques de ce courant grâce aux écrits de l'historien Flavius Joseph. Et il nous raconte une chose qui est incroyable. Il nous dit, voilà, dans le peuple d'Israël, il y avait trois couches sociales. La première, c'est l'aristocratie, les Sadducéens, c'est-à-dire les prêtres, ce qu'on appelle les Kohanim, les Kohen. Et il y avait les pharisiens, les Prouchim en hébreu, les pharisiens. Mais il existait, dit Flavius Joseph, une troisième catégorie de population qui, d'après toujours l'historien, était la meilleure et la plus parfaite de tous. Ce sont les Esséniens. Alors, qui sont les Esséniens? Tout d'abord, Flavius Joseph nous dit, ils sont juifs de nation, ils vivent dans des petits villages, ils ne se marient pas avec des femmes. Ça, c'est très surprenant parce que dans le judaïsme, comme vous le savez, le premier des 613 commandements est de se multiplier et se fructifier, c'est-à-dire de participer à la création du divin, c'est-à-dire continuer à peupler l'humanité et par cela compléter la création divine. Donc, c'est très, 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 très rare qu'une population ne se marie pas. Et ces hommes qui étaient juifs ne se mariaient pas parce qu'ils considéraient, d'après Flavius Joseph, que les femmes n'étaient pas assez fidèles aux hommes. Bon, on laisse ce sujet de côté. On pourrait dire la même chose sur les hommes aussi, mais on laisse ça de côté. Et donc, on nous raconte que tous ces gens-là vivaient dans une simplicité absolument incroyable. Tout d'abord, ils ne portaient que des habits usés et ne changeaient d'habits que quand ils étaient vraiment usés. Ils avaient renoncé à tout bien personnel, ils avaient mis tout en commun et avaient nommé un petit comité pour partager tous les biens rassemblés dans la communauté pour que chacun n'ait besoin de rien. Une partie de cette communauté travaillait dans l'agriculture, berger, plantait des dattes puisqu'on est dans le désert, et une autre partie écrivait. Chacun dans ses cellules où personne n'avait le droit de rentrer. Et ces Esséniens avaient l'aspiration, je dirais, d'accéder à une pureté absolument absolue, car dans Qumran, on retrouve énormément de bains rituels, presque un bain rituel par habitant. Ils mangent dans un réfectoire tous ensemble, en silence, avec beaucoup de respect, ils ne se mettent jamais en colère, ils n'ont pas besoin de promettre ni de jurer que leurs paroles sont des vraies paroles, c'est même offensant de leur demander. Ils s'occupent des voyageurs et des passants qui viennent chez eux, ils s'occupent aussi d'éduquer les enfants qu'on leur confie pour une période déterminée. Bref, ce sont des gens parfaits, habillés en blanc, qui se purifient, s'immergent dans des bains rituels au moins deux fois par jour et qui repoussent non seulement la richesse, mais aussi l'oisiveté, le plaisir, le luxe. Et ils détestent, comme dit Flavius Joseph, se oindre de l'huile sur le corps parce qu'ils n'aspirent pas du tout, comme on l'a rappelé, au plaisir corporel, physique, mais ils aspirent à une sainteté, à une pureté. Ce qui est intéressant de constater dans ces Esséniens qui ont disparu lors de la grande révolte des Juifs contre les Romains, c'est-à-dire en 70 de notre ère, en laissant cachés dans des jarres des manuscrits d'une importance considérable et absolument incroyable, ce qui est intéressant de constater, c'est que ce groupe-là s'est formé en opposition avec les descendants des rois Maccabées. Vous savez, les Maccabées, c'est une dynastie, on l'appelle aussi la dynastie des Asmonéens, Et puisqu'on est en plein Hanouka, nous fêtons, glorifions la révolte des Maccabées en -166 contre les Grecs asiatiques qui occupaient ce territoire, le territoire d'Israël. Certes, on glorifie cette révolte, mais on oublie souvent ce qui s'est passé après la révolte. Après la révolte, eh bien, cette famille a décidé de prendre les rênes du pouvoir et s'est perpétuée de prêtres, de grands prêtres et de rois. Et à un certain moment, deux ou trois générations plus tard, nous assistons à une guerre civile menée par un roi des Asmonéens, des Maccabées, qui s'appelle Alexander Jannée, en hébreu Alexander Yanaï. Et les Esséniens, cette petite catégorie, ce petit mouvement idéologique est tellement écœuré, tellement dégoûté par la conduite immorale des rois Maccabées, des rois qui étaient des prêtres, qui avaient au départ combattu l'hellénisme, mais qui revenaient à des pratiques ou à des coutumes hellénistiques dans leur façon de régner et de diriger le peuple, eh bien, décident de ne pas faire la guerre frontalement à la royauté des Maccabées, des Asmonéens, et décident tout le fait de partir, de quitter Jérusalem et de fonder des petits villages où ils vivent entre eux dans une communauté qui est fermée. Et c'est ce qu'on peut voir à Qumran, et l'héritage qu'ils nous ont laissé, encore une fois, c'est cet héritage d'écrits qui sont considérés d'une valeur absolument considérable parce qu'ils sont uniques. Certains manuscrits sont des passages de la Bible de 2000 ans, et donc c'est les plus vieux passages qu'on a de la Bible, parce que notre Bible, notre version actuelle de la Bible, date des années 900 de notre ère, tandis que là, on a retrouvé des parchemins avec des passages bibliques qui datent d'il y a 2000 ans. Et c'est extrêmement passionnant, intéressant pour les chercheurs et les historiens. Alors, il ne reste plus d'Esséniens, mais il leur reste un héritage. Dans le désert de Judée, par exemple, où je me rends souvent, eh bien, il y a des monastères qui comportent des petites cavernes, des petites grottes, où pendant le 5e, 6e siècle, des ermites venaient méditer et se retrouvaient dans des petits monastères où ils partageaient tous ensemble. Le monde chrétien a, lui, adopté aussi ce courant de pensée lorsqu'il a créé tous les ordres que l'on connaît, les ordres franciscains, dominicains, bénédictins, etc., les carmélites, en fait, ils sont fondés sur trois principes qu'observaient, je dirais, jalousement et avec zèle les Esséniens. D'abord, un renoncement à la propriété privée, une obéissance totale au chef de l'ordre, évidemment, l'abstinence de toute relation sexuelle. Et ces trois principes-là, eh bien, étaient des principes qui étaient partagés par les Esséniens à Qumran. C'est eux qui ont inauguré, si vous voulez, ce courant de pensée, ce mouvement qui a aussi donné plus tard à la naissance du kibbutz, le kibbutz israélien, cette société, cette organisation collective où tout est partagé et tout est mis en commun, repose aussi un peu sur cette philosophie des Esséniens. Alors certes, dans le kibbutz, il n'y a pas d'abstinence sexuelle, il y a des mariages et des enfants qui grandissent et qui sont éduqués normalement, mais l'obéissance à un petit comité qui était le comité directeur du kibbutz et qui décidait de toutes les grandes décisions et l'abnégation de toute, je dirais, de tout bien privé, toute appartenance à la possession de richesses, eh bien tout cela ressemble très 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 fortement aux Esséniens. Mais comme les Esséniens, le kibbutz, lui, dans sa conception, petit à petit disparaît parce qu'il est très difficile dans une société comme la nôtre, très capitaliste, très individualiste, bien de continuer à vivre en renonçant à toute propriété privée et en mettant tout en commun. En tous les cas, l'histoire de Hanouka est une belle histoire, mais souvent on a tendance, on a largement tendance à oublier ce qui s'est passé après Hanouka et qui nous a amené aussi à des catastrophes nationales terribles, notamment la présence des Romains dans ce territoire qui commencera en -63, donc 63 ans avant notre ère, avant Jésus-Christ. Et si les Romains arrivent dans cette région, c'est bien la faute des rois asmonéens, de deux rois, hein, qui s'appelaient Aristobulus numéro 2 et Orcanus numéro 2, qui se faisaient la guerre pour obtenir la couronne. Et l'un des frères, le frère aîné, a demandé de l'aide aux Romains pour venir arbitrer le conflit. Ce sont les Romains qui ont été appelés directement par les rois asmonéens, ces mêmes Romains qui entraîneront la destruction du temple, le second temple de Jérusalem, la chute de Jérusalem et surtout un exil qui durera plus de 1500 ans. Voilà en ce qui concerne Qumran, les Esséniens, Hanouka, les Romains, et Aslim, le respect qu'à vous souhaiter, de très bonnes fêtes de Hanouka, et puis aussi des fêtes de bonne année à tous les auditeurs, auditrices de cette radio.